Soirée des 20 ans du Master Immobilier de l'Université Paris-Dauphine, jeudi 12 mai 2022 sur Radio Immo.
Bientôt 22h ici sur le rooftop. Il y a pire comme souffrance, hein, vous le savez les amis. Il est bientôt 22h, on a une vue magnifique sur Paris, on voit un peu de lumière. En tout cas, si vous avez la possibilité de passer ici, rue Forest, pour fêter dignement les 20 ans du Master 246 de Paris-Dauphine, vous êtes les bienvenus. On parle de professionnel de l'immobilier. Tout à l'heure, je faisais allusion au trop faible nombre de femmes dirigeantes dans l'immobilier. Voilà, j'ai l'âge d'avoir connu l'immobilier à un peu plus de 35 ans. Et je suis ravi de voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui prennent des positions. Preuve d'intelligence des hommes d'avoir laissé aussi ce passage. Moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. En tout cas, je ne vais pas bouder mon plaisir puisque j'ai deux femmes dirigeantes sur le plateau. Et je suis très heureux de le recevoir. Émilie Palanque, directrice générale de Léon Gross Immobilier, est avec nous. Bonsoir Émilie.
Bonsoir, très heureuse d'être avec vous.
Et ben moi, je suis super content que vous soyez là. Merci d'être avec nous. On est en pleine fête, les 20 ans de ce master. Et aussi, j'allais dire, une sommité de l'immobilier. Bon, je vais bien sûr rajouter des superlatifs, mais en tout cas, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, qui est une grande professionnelle de l'immobilier, à la tête de GIC, c'est Mireille Verneret. Bonjour.
Bonjour.
Bonsoir plutôt.
Bonsoir.
Comment ça va Mireille?
Écoutez, bien. Bien, quelle belle soirée.
C'est magnifique hein, cette vue qu'on a ici.
La vue et la communauté du Master, c'est quand même superbe de voir tous ces gens réunis et avec autant de plaisir à se retrouver.
20 années, c'est l'âge d'une adolescence, une naissance. On peut dire que ces 20 années ont permis de former des jeunes professionnels à la financiarisation de l'immobilier. C'était le pari qui était prévu au départ. C'est vrai que la crise de 91 a obligé les banques à maîtriser les actifs immobiliers, ce qui n'était pas vraiment le cas à l'époque. C'était lié aussi à des contraintes. Hein. Il y avait beaucoup d'actifs qui étaient en déshérence. Hein. On a connu cette époque qui n'était pas évidente. Mais incroyablement, elle a permis à la profession de se structurer, de se développer, mais aussi de permettre une meilleure fluidité. Je parle d'accès au logement, je parle de bureaux, d'aménagement raisonné, pensé, construit. Et ça donne une vision des choses. Et on voit d'ailleurs que les 20 prochaines années seront peut-être l'année, Émilie, du verdissement, de l'invitation de la nature en ville, de communs plus apaisés, peut-être un peu moins d'espace, pourquoi pas, mais en tout cas des perspectives de l'air, du vert, à l'aune finalement d'un Covid que nous n'avions pas vu venir. Est-ce que quelque part les bonnes vieilles habitudes ont été rompues ou est-ce qu'on a tiré les leçons avec beaucoup d'humilité avec cette période Covid? Émilie Palanque.
C'est absolument ce que m'inspiraient les discours d'introduction. On parlait beaucoup de financiarisation, mais heureusement, maintenant, les attentes de l'immobilier se tournent beaucoup plus vers la qualité d'usage, vers l'importance de l'humain. Bien heureusement, j'ai envie de dire, on ne fait pas de l'immobilier dans un tableau Excel.
C'est vrai que ça paraît paradoxal.
Et avant tout, on fabrique des lieux de vie. Et voilà, pour moi, c'est essentiel de le rappeler. Et bien entendu, Denis Burkel parlait de l'importance de la ville résiliente et de la ville accueillante et durable. Et ça, j'ai envie de dire, c'est devenu une attente évidente de l'ensemble des générations et qui plus est des étudiants du master. Donc c'est comment ensemble on va construire entre étudiants, professeurs, professionnels, élus, la ville qu'on souhaite tous pour nos enfants demain, avec l'usage et l'humain et la nature au centre. En fait, ça ne doit pas rester de belles paroles. Il faut qu'ensemble on trouve des vraies solutions concrètes. Et bien sûr que le Covid peut être un accélérateur, mais pas seulement. Enfin, les enjeux climatiques s'imposent à nous. Et professionnels de l'immobilier, c'est vraiment notre responsabilité d'apporter des solutions concrètes avec des logements spacieux, qui ont une vraie qualité de luminosité, un vrai accès à la nature, des vues, des pourcentages de fenêtres qui sont dignes de ce nom. C'est toutes les solutions concrètes qu'on peut travailler aujourd'hui et proposer dans les projets immobiliers, en tout cas qu'on soutient.
Est-ce que vous, Mireille, vous partagez la même idée en disant finalement ce qui est apparu comme une contrainte, puisque c'est vraiment a été vécu comme une contrainte, quelque part a une vertu, c'est de nous faire réfléchir d'abord, un, de penser qu'on a cru naïvement que la prospérité était infinie, mais la Terre, c'est un cercle, hein, une fois qu'on a fait le tour, c'est pas évident, il faut qu'on invente une certaine forme de frugalité finalement dans la façon de penser la ville. Est-ce que vous partagez cette idée que quelque part ce qui est apparu réellement comme une contrainte peut devenir une réelle opportunité, un vrai levier pour une ville plus mobile, plus apaisée, plus harmonieuse.
Oui, absolument. Je pense que le Covid, en fait, a été un accélérateur, mais que déjà les consciences étaient en route sur la nouvelle façon de fabriquer la ville aujourd'hui. Et je rejoins tout à fait ce que vous disiez. Trop longtemps, l'homme s'est adapté à la ville. Parce qu'en ville, il y avait l'éducation, il y avait la culture, il y avait le travail. Et donc, on acceptait finalement une ville assez hostile et qui devenait une ville où le béton prenait la place, etc. Et aujourd'hui, je crois que le temps est venu vraiment que la ville se réadapte à l'homme. Et que finalement, c'est ce que vous disiez, c'est l'humain d'abord, l'humain qui est au centre. Le poids de la végétalisation aussi, il faut que cet équilibre entre le verre et le béton soit retrouvé. Bon, chez Ogic, ça fait 5 ans que Ogic, une nouvelle nature de ville, c'est quand même notre credo. Et donc ça, c'était c'est pas clair. Le Covid. Mmh. Mais c'est vrai que le Covid, où les gens étaient confinés, s'ils étaient confinés dans un appartement avec une terrasse, et là je rejoins la qualité d'usage, s'ils étaient confinés en voyant des arbres depuis leurs fenêtres, ils le vivaient mieux qu'en voyant des voitures sur le périphérique. Donc voilà, on est revenu finalement à des choses de bon sens, qui n'ont rien d'extraordinaire. C'est encore une fois le bon sens et l'attention à l'homme, l'attention à l'humain. Et je crois que le Covid a accéléré les choses, mais que les choses étaient quand même déjà en route.
Alors justement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment finalement, et d'ailleurs cette jeunesse que quelque part elle vous challenge, hein, elle nous challenge. D'abord ils sont nés avec un ordinateur dans les mains, ce sont ce qu'on appelle des digitaux natifs. Moi ça m'a toujours impressionné de voir à quel point ils avaient une capacité d'absorption incroyable quand je compare avec effectivement ne serait-ce que ma génération, de voir qu'aujourd'hui on est joignable partout tout le temps. Que quelque part ça pose à la fois un souci mais en même temps ça rassure évidemment et quand on entend un climat politique, géopolitique, on va pas faire de la politique de bas étage, mais quand même on voit que l'habitat prend une dimension qui touche plein de sujets, culture, loisirs, éducation, logement, et que le rapport entre l'emploi et le logement devient de plus en plus vrai. J'en veux pour preuve le désengorgement de certaines métropoles au profit de villes moyennes qui ont retrouvé des couleurs démographiques. Justement, chez Léon Gross Immobilier, vous, Émilie, cette vision de la ville, cette nouvelle urbanité, cette nouvelle anthropologie, est-ce qu'elle est porteuse d'espoir pour ces générations, puisque depuis 1982, il y a 14 millions de Français supplémentaires à loger, et alors que nous avons délivré en 2021, j'avais les chiffres tout à l'heure, 391 000 autorisations d'urbanisme, soit le même chiffre qu'il y avait il y a 40 ans exactement. Il y a un problème, c'est comment on fait pour loger les gens ?
Absolument. Vous posez énormément de questions très complexes.
On est plutôt dans la réflexion.
Vous parliez tout à l'heure de frugalité. On a évidemment, et sans faire de la politique aujourd'hui, mais un enjeu de pouvoir d'achat qui est essentiel. Ah oui. Et c'est de se dire voilà comment, et là aussi c'est la responsabilité de nous promoteurs, on va pouvoir concevoir des logements ou des lieux de vie qui peuvent en tout cas convenir au plus grand nombre avec des contraintes de pouvoir d'achat. Donc c'est notre responsabilité de mettre l'argent au bon endroit, de concevoir frugal dans la durée tout en absorbant les enjeux environnementaux. Donc c'est un vrai sujet. Face à ça, on parle on parle du Covid et bien sûr d'une forme de repli sur soi qu'il y a pu y avoir pendant ces quelques années. Et moi, ce que je ressens des jeunes étudiants, c'est justement pour eux leur envie d'être dans une communauté, ce que Mireille évoquait ce soir, le besoin de communauté, de ne pas vivre leur vie derrière un écran. Et ça aussi, je pense que c'est l'enjeu de la ville de demain, de créer du sens dans nos projets et de pouvoir finalement créer cette communauté à travers l'ensemble de nos projets immobiliers. Donc pour moi, voilà, les enjeux des jeunes générations, ils veulent du sens dans leur métier, ils veulent du sens dans leur vie d'une façon générale. Et l'habitat doit répondre aussi à ces différents enjeux.
Et quand vous les recrutez, on recrute différemment d'ailleurs, du coup.
Absolument. Et j'ai eu grand plaisir à discuter avec Denis Burkel tout à l'heure et je lui posais cette question. En quelques mots, à la lumière de vos étudiants, quels seraient les, les grands enjeux que vous ressentez chez eux. Alors bien sûr, c'est dur à résumer, mais une formule que j'ai vraiment particulièrement aimée, il a parlé de bonheur partagé. Et c'est ce qu'attendent les jeunes, et on pourrait dire les moins jeunes. Et c'est de se dire, bah voilà, les études, le travail, la vie en ville ou ailleurs doit offrir ce bonheur partagé, donc cette notion de communauté, et la ville doit répondre à ça. Comment on crée un espace individuel qui est l'habitat, mais comment on garde cet esprit de communauté à travers des espaces partagés, des espaces publics. Donc voilà, ça peut paraître des grandes données théoriques et qu'il faut traduire toujours encore dans des solutions concrètes, mais je pense que voilà, notre métier doit nous ouvrir à des solutions et nous pousser à toujours mieux réfléchir à cette individualité et communauté qui, là encore, a été réaccélérée finalement paradoxalement par le Covid. C'est le repli sur soi qui a donné encore plus envie aux jeunes de se retrouver finalement.
Dernière question pour vous, Mireille, parce que je sais que vous devez partir rapidement. On parlait de cette formation porteuse d'espoir, porteuse de sens. Il ne faut pas s'y tromper, c'est eux, ces jeunes, les étudiants qui seront aux affaires demain, hein, pour être très clair. Qu'est-ce que je peux vous demander? Qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? Quel qualificatif vous auriez pour justement les inciter à toujours continuer à se former, à s'éduquer et à former leur esprit à cette ville de demain dont on veut aujourd'hui qu'elle soit harmonieuse, laïque, apaisée et inclusive?
Je ne sais pas s'il faut vraiment les pousser. Je les trouve très très motivés par tous ces aspects-là. Moi, j'ai eu la chance dans la promotion de cette année dont je suis la marraine de les voir en petits groupes. Parce que je voulais avoir vraiment des entretiens un peu personnalisés avec chacun d'entre eux. Et ce qui m'a frappée, c'est justement leur envie d'apprendre, leur conviction sur la ville, leur conviction sur l'impact de ce métier qu'ils allaient donc, qu'ils sont déjà en train de pratiquer. Ils sont tous en alternance, hein, donc déjà ils sont. Je trouve qu'ils sont très conscients des enjeux et qu'ils ont une envie d'apprendre. Et des capacités, parce que ce master est quand même assez très sélectif. Je pense que, très honnêtement, toute la promotion de cette année, ce sera d'excellents collaborateurs dans des grands groupes. Et chez OGIC, alors j'ai créé un comité des jeunes début 2020 pour justement répondre aux attentes dont vous parliez tout à l'heure. Et ce comité des jeunes, il est d'abord transverse. Il y a toutes les fonctions de l'entreprise qui sont représentées, opérationnelles, mais aussi fonctionnelles. Ils travaillent ensemble. Il y a des sujets qui émergent d'eux. Il y a des sujets que le CODIR leur donne. Et c'est un espace de liberté, de dialogue, d'échange et d'idées. Et je dois dire qu'ils ont déjà nourri la stratégie d'OGIC parce qu'ils sont pleins de bonnes idées.
Bien, ouais.
Et je suis sûre que les jeunes du master là, que je connais un peu mieux cette année, sont aussi des gens qui seront porteurs de sens dans l'entreprise et force de proposition.
Et ces idées, vous pouvez en retirer quelque chose qui,
bien
peut,
sûr, bien
qui
sûr.
Peut développer un projet d'entreprise à l'intérieur de l'entreprise.
Exactement. Et en tout cas, on peut enrichir la stratégie de l'entreprise avec leurs idées. Il y a eu plusieurs exemples déjà depuis la création du COGE. Voilà, ils viennent nous présenter leurs travaux deux fois par an dans le comité de direction. Et on a retenu plusieurs idées qui sont déjà appliquées aujourd'hui.
Moi, je trouve ça génial.
Voilà.
Il est l'heure de nous quitter parce qu'on a un temps restrictif, mais faites-moi plaisir, Mireille, et vous aussi, Émilie. Faites-moi le plaisir de revenir à mon micro avec moi comme intervieweur, parce que c'est la première fois que je vous interviewe toutes les deux, c'est un vrai plaisir. Et donc, je suis un peu frustré parce que j'aimerais en avoir un peu plus. Promettez-moi de venir dans nos bureaux parisiens, dans nos studios parisiens. On est installé dans l'ancien siège du Parisien Libéré, chez Spaces, une filiale d'IWG. Où on a des très beaux studios pour en savoir plus.
Je vais vous demander juste un petit mot complémentaire de Mireille. Léon Gross Immobilier est partenaire pour la première année du master et notre enjeu, notre proposition, c'est vraiment de co-construire avec les étudiants la ville qu'ils rêvent demain et qu'elle soit réalité. Donc je pense que voilà, le dialogue entre étudiants et entreprises et je pense la richesse de ce master.
Et vous prenez des alternants, il faut aussi rappeler que les alternants, c'est une troisième voie pour l'éducation.
Complètement.
Pour des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens financiers de pouvoir financer leurs études parce qu'ils perçoivent un salaire. Alors certes, ils cumulent entreprise et formation, mais quand on voit les résultats d'employabilité, c'est sans appel, hein, ça
fonctionne
extrêmement bien. Je vais vous proposer une dernière chose, un qualificatif, un adjectif qui vous viendrait à l'esprit pour réenchanter, même lyrique, même pourquoi pas onirique, qu'est-ce que vous diriez pour qualifier ce master cette jeunesse qui arrive là aux affaires, qui est en formation, qui sera en formation. Vous diriez quoi ?
Inspirant.
Inspirant. Mmh. Très beau. Et vous, Émilie ?
Envie.
Envie. Voilà. Pour avoir cette inspiration, encore faut-il en avoir envie. Je pense que c'est une belle conclusion. Merci à Émilie Palang, directrice générale chez Léon Gross Immobilier. Merci à vous. Mireille Bernard, c'est un véritable plaisir à la tête de GIC de vous recevoir. Faites-moi le plaisir, vous viendrez. On se retrouve bien évidemment le replay du podcast, comme d'habitude, sur l'application. N'oubliez pas la 4e édition du livre Le management de l'immobilier. 4e édition, c'est un peu la Bible, hein, qui ne quitte pas les étudiants. Merci à toutes et à tous. On se retrouve tout de suite après.
Soirée des 20 ans du Master Immobilier de l'Université Paris-Dauphine, jeudi 12 mai 2022 sur Radio Immo.